Actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. RFI vous donne donc la parole. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur la nouvelle constitution au Burkina Faso. C'était l'une des promesses électorales du président Roch Marc-Christian Caboret. Une nouvelle constitution pour une nouvelle république et permettre ainsi au Burkina Faso de tourner définitivement la page du régime Compaoré, un régime qui aura duré 27 ans et qui a été renversé, je vous le rappelle, il y a maintenant 2 ans par une insurrection populaire. La commission qui est donc chargée de rédiger cette nouvelle constitution a été mise en place il y a quelques jours. Elle dispose de 2 mois pour élaborer son avant-projet. Alors justement, quel changement majeur attendez-vous? Dites-nous si le Burkina Faso a vraiment besoin d'une constitution post-révolution. Vous nous rejoignez au standard, vous continuez à nous appeler ici à Paris, 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Je vois déjà sur mon écran que plusieurs Burkinabés de la diaspora vivant en région parisienne souhaitent prendre la parole. On en parlera donc tous ensemble dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction des RFI, vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Jean Bedel nous appelle de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour Jean Bedel.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs, et surtout bonjour à votre équipe technique sans laquelle je ne serais pas sur cette émission.
Eh bien, nous non plus, moi non plus, je ne pourrais pas vous parler en ce moment sans évidemment tous les techniciens. On vous écoute, Jean Bedel, quelles sont vos questions?
Oui, Juan, l'ancien président et premier ministre israélien Shimon Peres est mort depuis mercredi. Et à ce sujet, j'aimerais savoir, que reste-t-il des accords d'Oslo et quelle suite est donnée à ces accords aujourd'hui après la mort de tous ses principaux acteurs?
Ah, que reste-t-il des accords d'Oslo signés en 1993 et pour lesquels, rappelons-le, Shimon Peres a eu son prix Nobel de la paix 1 an plus tard avec Yitzhak Rabin et Yasser Arafat? Bonjour Guilhem Delteil.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le correspondant permanent des RFI à Jérusalem. C'est vrai que ces accords d'Oslo avaient suscité un immense espoir, même si on se souvient, la droite israélienne était totalement opposée à la signature de ce texte. 23 ans plus tard, on peut dire que cet espoir ne s'est jamais concrétisé. Et en même temps, Guilhem Détail, il y a quelques acquis qui perdurent encore aujourd'hui.
Oui, alors juste une petite précision d'entrée, Juan, si vous me le permettez. Si l'histoire a effectivement retenu qu'il y avait 3 principaux acteurs à ces accords, les Israéliens Yitzhak Rabin, Shimon Peres et le Palestinien Yasser Arafat, qui ont été récompensés du prix Nobel de la paix, il y avait un autre signataire qui, lui, est toujours en vie, en l'occurrence Mahmoud Abbas, qui est aujourd'hui le président de l'autorité palestinienne. Alors, il y a effectivement eu quand même des acquis à ces accords d'Oslo. Pas mal de choses ont changé depuis 1993. Il y a eu tout d'abord une reconnaissance mutuelle. Yasser Arafat a reconnu alors l'existence de l'État d'Israël pour les Palestiniens. Les Israéliens ont reconnu une autonomie aux Palestiniens sur un territoire qu'ils contrôlaient alors totalement. Il y a ensuite la naissance de l'autorité palestinienne, car il faut se souvenir que c'est en tant que président de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, que Yasser Arafat a signé ces accords. Ce n'est qu'en 1994, après la signature, qu'est née l'autorité palestinienne, cet embryon d'État qui administre désormais la majeure partie des Palestiniens. Car Oslo s'est traduit par un certain retrait des Israéliens des territoires palestiniens qu'ils occupaient, je le disais, totalement. La Cisjordanie est divisée aujourd'hui en 3 zones. La zone A, ce sont les principales villes palestiniennes comme Ramallah, Bethléem, Jéricho, Naplouse. Officiellement, elles sont sous contrôle total palestinien. Leur entrée est interdite aux citoyens israéliens, mais l'armée israélienne y mène tout de même des opérations ponctuelles. Et puis, il y a la zone B qui regroupe les villages palestiniens. Ils sont sous administration civile de l'autorité palestinienne. Le contrôle militaire, lui, reste israélien en lien avec la police palestinienne. Avec les zones A et B, l'autorité palestinienne, eh bien, elle administre, d'un point de vue civil, en tout cas, quasiment la totalité de la population palestinienne. Reste ensuite la zone C. Ce sont des zones définies comme militaires qui sont sous contrôle total des Israéliens. Elles regroupent les colonies considérées comme légales par la loi israélienne, des sites stratégiques comme la vallée du Jourdain. C'est là, en fait, la plus grande partie de la Cisjordanie. Elle représente près des 2/3 de ce territoire palestinien.
Et Oslo a conduit à la création aussi d'un conseil législatif palestinien.
Oui, le Parlement de cet embryon d'État, les premières élections ont eu lieu en 1996. Alors il faut bien avouer que ce Conseil législatif aujourd'hui est mal en point. Il n'y a pas eu d'élection depuis 10 ans, depuis la guerre fratricide entre le Hamas et le Fatah à Gaza. Enfin, Oslo a aussi jeté, Rouen, les bases d'une coopération israélo-palestinienne qui existe aujourd'hui, qui est une réalité, qu'elle soit civile ou sécuritaire. Les forces palestiniennes et israéliennes se parlent.
Ouais, et pour le reste de l'accord, on peut le dire, c'est véritablement l'impasse. Quel avenir, nous demandait Jean Bedel, quel avenir maintenant pour Oslo ?
Alors c'est vrai que c'est quand on pense à l'avenir de cet accord que beaucoup disent qu'Oslo est mort, car si Oslo a permis d'avancer vers une solution à deux États, on en est toujours loin. Des échéances sur le retrait des Israéliens fixées par l'accord n'ont notamment pas été respectées. Alors les deux parties se rejettent la responsabilité de cet échec. Aux yeux des Israéliens, les Palestiniens n'ont pas renoncé à la violence. Il y a eu la seconde intifada au début des années 2000, et puis il y a depuis l'année dernière l'intifada des couteaux. Pour l'autorité palestinienne, cette violence est le résultat de l'absence de perspective pour les Palestiniens en raison de l'occupation. Une occupation qu'il dénonce comme croissante avec la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie. Aujourd'hui, il existe près de 600 000 Israéliens qui vivent en Cisjordanie.
Alors, une petite comparaison, 600 000 Israéliens aujourd'hui en Cisjordanie, alors qu'en 1993, au moment de la signature des accords d'Oslo, on en comptait 280 000.
Effectivement, la colonisation s'est accentuée au cours des années depuis la signature d'Oslo. 600 000 Israéliens qui vivent en Cisjordanie face à une population palestinienne évaluée, les statistiques sont moins fiables, mais elle est évaluée à 4 millions de Palestiniens en Cisjordanie. Donc 600 000 Israéliens, ça représente quand même une proportion assez importante de la population de ce territoire. Donc, il y a eu des progrès, une certaine autonomie palestinienne, un retrait partiel des Israéliens des territoires palestiniens. Ça, c'était dans les années qui ont suivi l'accord. Depuis, il faut bien avouer qu'il y a un statu quo et peu de perspectives de véritables changements, car il n'y a plus de négociations au sommet entre les deux parties. Les deux dirigeants, Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou, ne se sont plus véritablement parlé depuis septembre 2010. Cela fait 6 ans. Alors, au niveau international, du coup, le pessimisme se fait sentir. L'occupation israélienne aura 50 ans l'année prochaine. Et avec le développement des colonies, bien cette solution à deux États prônée par Oslo paraît de plus en plus difficile à atteindre. Ces colonies ont suscité l'inquiétude récemment, par exemple, de John Kerry, le secrétaire d'État américain. Pour lui, il le disait à l'Assemblée générale des Nations unies, il y a urgence à agir pour qu'une solution à deux États puisse voir le jour. Eh bien, pour beaucoup, c'est plutôt le pessimisme qui règne. Un sondage publié hier montrait que 2/3 des Israéliens ne croient pas à un accord de paix avec les Palestiniens.
Et j'ai sous les yeux un autre sondage concernant les Palestiniens. 54% sont favorables aujourd'hui à l'abandon d'Oslo et 34% des personnes interrogées sont même pour la renégociation de ces accords. Merci beaucoup Guilhem Delteille. Jean Bedel, on a répondu à vos questions ?
Parfaitement bien, Juan, merci.
Eh bien, merci surtout donc à notre correspondant permanent à Jérusalem. Bonne journée à vous, Jean Bedel. 10h18 à Paris, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Laura Martel du Service Afrique nous rejoint à l'instant. Bonjour Laura.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous avez suivi ce procès qui a abouti à la condamnation il y a quelques jours à 9 ans de prison d'Ahmed Al-Faqi Al-Mahdi. Il a été condamné pour avoir détruit des mausolées de Tombouctou au nord du Mali. Mohamedou, bonjour.
Bonjour, monsieur Wan.
Vous nous appelez de Garoua, dans la région du nord du Cameroun. On vous écoute.
Oui, bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité. Oui, monsieur Wan, suite au verdict du Cour pénal international, condamnant monsieur Al-Faqi à 9 ans de prison pour la destruction des mausolées dans le nord du Mali. Je voulais savoir. Pourquoi la CPI a donné priorité aux destructions des mausolées, tout en délaissant les autres crimes commis par les terroristes à l'époque dans le nord du Mali?
Ah ouais, le nord du Mali qui était en 2012, à l'époque des faits, occupé par les djihadistes. Laura Martel, c'est vrai que le verdict n'a pas fait l'unanimité. C'était quand même la première fois que la CPI jugeait un criminel pour destruction de biens culturels. On voit, et on le voit en ce moment en Irak ou en Syrie, Daesh s'en prend au patrimoine culturel. Les talibans avaient fait de même en Afghanistan. Les djihadistes ont fait de même donc au nord du Mali. Quid effectivement des crimes de guerre commis par ces djihadistes? djihadistes.
Oui, vous le soulignez, Juan, hein, il y a eu la satisfaction, bien sûr, à l'énoncé du verdict, satisfaction pour cette première condamnation pour la destruction de biens culturels, comme vous le dites, dans un contexte où de nombreux sites classés sont menacés. C'était aussi la première condamnation, effectivement, sur le conflit au nord du Mali, depuis la saisie de la CPI hein, par l'État malien, c'était en 2012. Mais effectivement, tout de suite, les limites du jugement étaient soulignées par de nombreux acteurs, comme le fait notamment Mahamadou Bakary Camara, par exemple, de l'Association malienne des droits de l'homme, a tout de suite souligné que, effectivement, cette décision marquait un pas important dans la lutte contre l'impunité au Mali, où les procédures peinent à avancer. Mais, disait-il, il est urgent que les autorités maliennes se mobilisent davantage pour que les auteurs des crimes commis contre les civils, et notamment les crimes de violence sexuelle, soient effectivement poursuivis. Du coup, la MDH et la FIDH, qui travaillent ensemble sur ce dossier, parlaient d'une victoire au goût inachevé et soulignaient qu'elles auraient souhaité, justement, que Ahmad Al-Mahdi soit poursuivi aussi pour les atteintes aux personnes commises à la même époque à Tombouctou. Alors, on a interrogé, évidemment, sur ce point, le bureau du procureur, le substitut...
Bureau du procureur de la CPI.
De la CPI, hein. Oui, qui poursuivait, justement, donc Al-Mahdi. Le substitut Gilles Duterte nous dit « La pierre angulaire de toute poursuite, c'est d'avoir la preuve qui permette d'obtenir une condamnation. Et c'est pour ça qu'on a poursuivi d'abord le crime d'attaque contre les bâtiments historiques et consacrés à la religion. Et effectivement, durant le procès, au-delà des aveux d'Al-Mahdi, on a pu voir les preuves apportées par le bureau du procureur, des preuves concrètes, par exemple, comme des photos satellites qui montraient la présence des mausolées, puis leur destruction, qui permet d'établir donc la réalité du crime. Il y avait aussi à disposition, par exemple, des vidéos de propagande où Al-Mahdi, justement, expliquait, justifiait, revendiquait ces destructions. Donc, dans un contexte où, effectivement, au Nord-Mali, les enquêtes sont difficiles, on comprend bien qu'il soit plus facile pour la Cour de prouver matériellement ces destructions de mausolées plutôt que des crimes de sang qui reposeraient, on l'imagine, sur des témoignages difficiles à recueillir dans un contexte où les victimes craignent encore, évidemment, pour leur sécurité et où il faudrait, effectivement, confronter ces témoignages et où, du coup, la preuve du crime serait beaucoup plus difficile à apporter.
En tout cas, il y a de plus en plus de pression hein, sur la CPI puisque plusieurs ONG maliennes et internationales demandent maintenant des poursuites contre les auteurs de crimes de sang pendant l'occupation du nord du Mali. Mahamadou, vous avez une autre question ?
Oui, monsieur. Et je voulais savoir, est-ce que la CPI va se prononcer encore sur les autres crimes ? Est-ce que les enquêtes sont en cours ?
Alors, Laura Martel, pour le moment, il n'y a aucune procédure pour crime de sang.
Alors, aucune poursuite nominative a été lancée, mais effectivement, des enquêtes sont en cours. Le bureau du procureur, nous dit Gilles Duterte, le substitut, continue son enquête au Mali, notamment donc sur les crimes de nature sexuelle et les meurtres. Et donc, le bureau dit que le moment venu, des poursuites pourront être engagées contre les personnes contre lesquelles il y a cette preuve qui pourrait être réunie. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment un problème de réunir des preuves pour établir les responsabilités de ces crimes dans le contexte sécuritaire, on l'a dit, peut-être aussi des manques de moyens, peut-être aussi un manque de volonté politique quand on sait que certains acteurs ont pu rejoindre des groupes armés. Il y a la fragilité de l'accord de paix aussi qui pèse dans la balance. Alors deux plaintes ont été déposées aussi à Bamako, notamment une plainte par la FIDH et la MDH au nom de 33 victimes de Tombouctou et qui vise justement Ahmad Al-Mahdi et 14 autres personnes pour des crimes de guerre contre l'humanité qui incluent des crimes sexuels et notamment le viol et l'esclavage sexuel. Et puis un dernier point, on l'a vu dans le procès, Tombouctou, la gestion de la ville, était aux mains d'autres figures. Il n'y avait pas que Ahmad Al-Mahdi. Et ces personnes, certaines, ont été relâchées. On pense à Sanda Oulbouamama, le chef de la cellule communication, qui était remis aux autorités mauritaniennes, qui l'ont relâché en 2015. On pense à Ouka Ouka, le responsable du tribunal islamique, libéré, lui, en août 2014 par les autorités maliennes. Donc, il y a aussi tous ces groupes dont s'accusent les différents groupes armés, crimes aussi qu'aurait commis l'armée malienne dans ce contexte. Juste un chiffre, la FIDH, dans un rapport de février dernier, disait que les autorités maliennes ont libéré 220 personnes arrêtées en relation avec le conflit du Nord. Selon la FIDH, au moins 40 46 de ces personnes libérées seraient des auteurs présumés des crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou de graves exactions. Donc il y a vraiment là une nécessité de lutter contre l'impunité et contre ces crimes de sang au Normandie.
Donc sur les 220 personnes libérées, 46 d'entre elles seraient des auteurs présumés de crimes contre l'humanité. Effectivement, un chiffre qui fait froid dans le dos. On va suivre de près l'évolution de ce dossier. Laura Martel, merci beaucoup d'être venue répondre à Mohamedou, qui nous appelait donc du Cameroun. Chris est dans le Maryland, aux États-Unis. Il écoute RFI en pleine nuit. Bonjour Chris.
Bonjour Johan.
Bienvenue, merci d'être fidèle à RFI. Vous avez des questions concernant le bras de fer entre le Congrès américain et le président Obama?
Oui, évidemment. J'ai appris par les ondes de RFI que le Congrès américain a contrecarré le droit de veto du président Obama pour voter une loi qui permet aux membres des familles des victimes du 11 septembre de poursuivre l'Arabie saoudite en justice. J'ai deux préoccupations. Comment se fait-il que le Congrès a pu contrecarrer le droit de veto du président Obama? Deuxième question, est-ce que le président Obama a un dernier moyen de recours pour revenir sur cette décision du Congrès américain?
Ouais, c'est vrai que c'est un camouflet pour Barack Obama. Bonjour François Durpère.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historien spécialiste des États-Unis. On vous doit de nombreux ouvrages, dont Les États-Unis pour les nuls, publié aux éditions First. C'est la première fois, François Durpère, en 8 ans, que le président américain voit son veto rejeté par le Congrès.
Oui, alors, le veto du président, là il y a le fond et la forme dans la question de Chris. Je parle d'abord de la question de forme institutionnelle. Pour que une loi en fait du Congrès soit rejetée par le président, mais il y a deux types de veto. Là je pense que c'est un petit peu, je peux pas expliquer vraiment ces deux types, on n'a pas beaucoup de temps. Par contre, ce qu'il faut bien relever, c'est que ce veto du président peut être levé par le Congrès à la majorité des 2/3. Ça veut dire que le Sénat et la Chambre des représentants, eh bien, il faut qu'il y ait 2/3 des sénateurs et des représentants qui soient contre le veto du président. C'est ce qui s'est passé. Le Sénat, à 97 voix hein, sur 100, a rejeté le veto du président Obama, et la Chambre des représentants, 348 voix, a rejeté le veto du président. Deuxième question de Chris, c'était est-ce que le président peut faire quelque chose? La réponse est non, le président ne peut plus rien faire. C'est le Congrès qui a le dernier mot. Alors, ce qu'il faut quand même remarquer dans l'histoire institutionnelle américaine, c'est que il y a la théorie et la pratique. En théorie, c'est le Congrès qui a le dernier mot, et c'est ce qui vient de se passer. Maintenant, en pratique, la plupart du temps, le Congrès ne laisse pas le veto du président. Pour vous donner un exemple sur les 12 vétos du président Obama, c'est le premier à avoir été levé par le Congrès. Et dans l'histoire de ce pays, les États-Unis, eh bien, on peut dire que sur l'ensemble des vétos qui ont été déposés depuis le premier, depuis George Washington, c'était 2500 vétos dans l'histoire, eh bien, il y en a seulement une centaine qui ont été levés par le Congrès.
Ah oui, effectivement. Donc Barack Obama restera notamment dans l'histoire pour ce fait précis. Et en même temps, ça signifie, François Durpère, que de nombreux élus démocrates ont rejeté le veto de Barack Obama, c'est-à-dire qu'il ne fait pas l'unanimité dans son propre camp.
Mais Juan, je vais vous expliquer quelque chose de très simple, c'est que nous sommes à 5 semaines d'une élection présidentielle, mais aussi d'une élection au Congrès. Et donc les démocrates, comme les républicains, ne veulent pas se fâcher avec les familles des victimes du 11 septembre, mais plus largement avec l'opinion publique américaine. L'opinion publique américaine qui suit de très près les revendications de ces familles. Et donc les congressmen, mais ils voient leur intérêt, c'est-à-dire leur réélection. Alors attention, Obama, c'est pas... vous dites, vous avez raison, il restera dans l'histoire. George W. Bush, c'était quand même 4 vétos levés sur 12. Donc, vous voyez qu'avec 1 sur 12, Obama n'est pas le président qui a été le plus empêché par son congrès.
On reconnaît là, François Durpère, l'historien spécialiste des États-Unis que vous êtes. On vous libère, je sais que vous avez cours, vos étudiants vous attendent. On avait prévu... Je sais que pas tout, mais je sais certaines choses. On avait prévu d'autres questions, notamment notamment sur la campagne électorale qui se déroule en ce moment aux États-Unis. On ne manquera pas, évidemment, François Durper, de vous recontacter si vous êtes disponible pour répondre à nos auditeurs. 10h30 à Paris dans quelques instants, ce sera évidemment le journal, le point complet sur l'actualité. Et on sera de retour tout de suite après, dans 10 minutes, pour notre débat sur la nouvelle constitution au Burkina Faso. Et oui, une nouvelle constitution pour une nouvelle république. Le pays s'apprête donc à passer de la 4e à la 5e république. 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.